Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, accompagner davantage les élèves en situation de handicap. C'est l'un des engagements du gouvernement. 4000 nouveaux postes d'accompagnants seront créés dans le budget 2021 présenté ce matin. Un métier toutefois très fragile et peu valorisé, comme on l'entendra. Le chouchou des Français est un ancien Premier ministre. Suspense. Résultat de notre sondage. Odoxa à suivre dans un instant. À suivre aussi l'auteur de l'attaque au hachoir qui revendique son acte dans une vidéo, le point sur l'enquête dans le journal. Donald Trump qui n'a payé que $750 d'impôts en 2016. Le Caucase du Sud au bord de la guerre, nous entendrons l'inquiétude d'une habitante du Haut-Karabakh et un premier dimanche à Roland-Garros, ambiance pluvieuse et déprimante.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui le président du Parti Les Républicains, député de Seine-et-Marne, j'ai nommé Christian Jacob.
France Inter.
Elles sont payées 1000 euros, Sébastien, par mois, pour s'occuper d'enfants handicapés.
Un bien maigre salaire, c'est ce que disent en tout cas les AESH, ces accompagnants pour élèves en situation de handicap. Le budget présenté ce matin au Conseil des ministres devrait annoncer une hausse très sensible du nombre de leurs postes. 4000 AESH de plus pour l'an prochain, on en a déjà parlé ici dans ce journal. Mais derrière les chiffres, il y a une réalité de terrain bien moins glorieuse. Les AESH sont des métiers difficiles à temps partiel et donc très peu payé. Wafia Kanish a recueilli le témoignage de deux d'entre elles.
Prendre des notes, reformuler les instructions de la maîtresse ou aider à porter un cartable, c'est le quotidien de Sylvie. Depuis 13 ans, elle est accompagnante scolaire auprès d'élèves en situation de handicap dans les Hautes-Pyrénées. Elle est en CDI, mais comme la plupart de ses collègues, elle est contrainte au temps partiel.
Donc je travaille 31 heures par semaine. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 8h à 17h, pour 1000 euros par mois. Et je m'occupe de 11 enfants. Moi je l'adore ce métier, hein, je suis passionnée, mais je voudrais pouvoir en vivre décemment.
C'est aussi ce que voudrait Nadine, accompagnante depuis 2 ans en région parisienne. Cette femme de 49 ans gagne 728 euros net pour 20 heures hebdomadaires. Elle aimerait bien sûr un meilleur salaire, mais aussi être mieux formée. Comme c'est souvent le cas, l'un des enfants dont elle s'occupait psychiquement très fragile. Et elle ne se sent pas assez armée pour pouvoir vraiment l'aider.
Est-ce que mon métier, je le fais correctement? Est-ce que je l'aide vraiment? C'est un beau métier, hein? C'est un très beau métier. Mais avec mes collègues, on va dire, on ne sait plus sur quel pied danser par moment.
Un désarroi qui pousse certaines accompagnantes à la démission. Les familles et les enseignants sont alors sans solution. L'an dernier, 8000 enfants en situation de handicap ont été privés d'école.
Wafia Kanish, le budget de l'éducation nationale reste malgré tout l'un des grands gagnants de ce budget 2021. 1 milliard d'euros en plus, avec notamment des hausses de salaire attendues en janvier pour les jeunes enseignants.
Il est 7h33, Sébastien, c'est la superstar de la rentrée. J'ai nommé Édouard Philippe.
L'ancien Premier ministre sort premier des derniers sondages de popularité. C'est la personnalité politique préférée des Français. 63% de bonnes opinions. Un score de vedette qui transcende tous les partis. Écoutez Gaël Slimane, il est cofondateur et président de l'Institut de sondage Odoxa.
Il écrase la concurrence. Il est non seulement premier, mais surtout il est premier très très loin devant tous les autres hommes et femmes politiques qu'il y a en France. Il cartonne, comme on dit, auprès des sympathisants de La République En Marche, qu'il aimait déjà beaucoup avant, quand il était encore à Matignon. Mais il parvient aussi à fédérer l'ensemble des sympathisants LR. Et il fait presque aussi bien, et ça c'est peut-être une surprise, auprès des sympathisants socialistes. Il est à 73% de popularité, à 65% auprès des écologistes. Donc la gauche l'aime plutôt bien. Il est évident qu'avec ce niveau de popularité, s'il se maintient un petit peu, si jamais dans l'année qui vient, Emmanuel Macron a du mal à décoller en termes de popularité, alors inexorablement, on verrait les médias, les commentateurs politiques, les sondages, faire d'Edouard Philippe un recours, parce qu'il en a toutes les qualités et tous les attributs dans l'opinion.
Gaël Slimane, cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa avec Cécilia Arbona, sondage Odoxa pour France Inter, à retrouver sur franceinter.fr. Les restaurants et les bars qui vont devoir tirer le rideau à Marseille et Aix-en-Provence. Après un petit répit ce week-end, c'est aujourd'hui en effet qu'entrent en vigueur les nouvelles restrictions sanitaires à Paris. Les restaurants sont épargnés. Les bars, en revanche, vont devoir fermer à 22h. Le principal suspect dans l'attaque au hachoir de vendredi dernier en bas des anciens locaux de Charlie Hebdo est toujours en garde à vue avec 5 autres de ses connaissances. Mais la piste qui semble se dessiner selon les enquêteurs, c'est celle de l'acte d'un homme seul. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Sébastien.
Ce jeune Pakistanais de 18 ans a reconnu être l'auteur des coups. Il a revendiqué, Corinne, son acte dans une vidéo tournée avant l'attaque.
Oui, sur cette vidéo, le jeune homme est présenté sous un autre nom que celui qu'il a déclaré aux enquêteurs. Et selon les informations du Monde, ce matin, les policiers ont découvert dans son téléphone la photo d'une pièce d'identité avec cet autre nom qui indique une date de naissance différente en 1995. Arrivé en France il y a 2 ans avec ses 2 petits frères, l'homme avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Cette découverte remet donc en cause le parcours de l'assaillant tel qu'il était présenté jusqu'à présent puisqu'il aurait 25 ans. Mais cela ne remet pas en question son pédigré judiciaire puisque ses empreintes avaient été passées au crible et il n'apparaît dans les fichiers de la police que pour une affaire de port d'armes prohibées dans les transports pour lesquels il avait écopé d'un rappel à la loi. Alors sur cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on le voit habillé d'une longue tunique blanche, s'exprimant en ourdou. Il alterne discours et chants, les larmes dans la voix pour dire sa tristesse et sa colère face aux caricatures de Mahomet, une façon de revendiquer son acte, même s'il n'y fait pas spécifiquement allégeance à une organisation terroriste. En garde à vue, il a affirmé avoir voulu s'en prendre à Charlie Hebdo. Il ignorait que le journal avait déménagé. À ce stade, tout laisse penser qu'il a agi seul, poussé par des raisons religieuses.
Corinne Audouin du service police-justice de France Inter. Ajoutons que les 2 blessés employés de la société de production Première Ligne ont été opérés et leurs jours ne sont plus en danger. Direction les États-Unis avec un nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle. À la veille du premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden, c'est une bombe qu'a sorti cette nuit le New York Times, les feuilles d'impôts du président américain qu'il n'a jamais voulu rendre publiques. Des informations fiscales explosives où il apparaît que l'homme d'affaires devenu président ne paye pas d'impôts ou alors très peu et surtout qu'il est considérablement endetté et beaucoup moins riche que ce qu'il prétend. Grégory Phillips.
Pour l'année 2016, celle de son élection, Donald Trump n'a payé, selon le New York Times, que 750 dollars d'impôts fédéraux, la même somme en 2017. Autant dire quasiment rien. Plus fort encore, le quotidien affirme que sur 10 des 15 dernières années, Trump n'a pas versé 1 dollar à l'administration fiscale. L'explication est simple, l'homme d'affaires perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Il est très endetté. Certes, sa participation à l'émission télé The Apprentice lui a rapporté un peu plus de 400 millions de dollars, mais la plupart des 500 entités qui composent la Trump Organization sont dans le rouge. Les golfs qu'il possède ou le Trump Hotel à Washington perdent chaque année des dizaines de millions. Voilà qui écorne sérieusement l'image que Trump veut incarner depuis des années, celle d'un businessman à qui tout réussit. Interrogé hier, le président a parlé d'informations bidons créées de toutes pièces. À titre de comparaison, Joe Biden a lui publié sa déclaration de revenus pour 2017. Le candidat démocrate a versé au Trésor américain la somme de 3 400 000 dollars. Cleveland, Grégory Phillips, France Inter.
Aux États-Unis encore un répit pour TikTok, l'application la plus partagée par les ados. Donald Trump voulait interdire cette application chinoise à partir d'hier soir, mais un juge a temporairement bloqué le décret de l'administration. C'est une région du monde peu connue aux confins de l'Europe et de l'Orient où un conflit couve depuis 30 ans. Le Haut-Karabakh, cette région montagneuse appartenant à l'Azerbaïdjan, mais qui voudrait prendre son indépendance car peuplée majoritairement d'Arméniens. En 1991, une première guerre a fait 30 000 morts. Depuis, les tensions sont quasi permanentes. C'est ce week-end, nouveau regain de violence avec déploiement de blindés de part et d'autre. Un bilan déjà lourd de plus de 20 morts, difficile à confirmer. Et une angoisse qui monte dans toute la région, comme le raconte cette habitante de la capitale du Haut-Karabakh. Nelly Ovanessian a passé son dimanche au sous-sol de son immeuble à se protéger des bombes.
Le matin, vers 7h05, 7h10, on était tous réveillés par des bombardements. Moi-même, par exemple, je suis sortie dans le balcon immédiatement pour comprendre ce qui s'est passé parce que je ne croyais pas que c'était la guerre. On est tous dans les sous-sols avec des enfants et des personnes âgées. J'ai un voisin, un jeune homme de 30 ans peut-être. Il a été blessé dans la ville. Il était au centre de la ville et il a reçu une blessure. Pour moi, oui, grâce à Dieu, tout va bien, mais on est dans la crainte parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas connecté. On sait qu'il y a des attaques sur toutes les positions. C'est la troisième guerre que je vis. J'ai vécu celle de 1991, 2016 et celle d'aujourd'hui. Et oui, il y a de la crainte. On ne sait pas comment ça va se finir. Je ne peux pas dire.
Voilà une habitante du Haut-Karabakh jointe par Benjamin Boukrich. Autre situation inquiétante à l'étranger, la Biélorussie. Nouvelle manifestation de milliers d'opposants au président Loukachenko ce week-end. Loukachenko qui doit partir, c'est ce qu'a dit ce week-end le président Macron, le chef de l'État, part aujourd'hui pour deux jours dans les pays voisins, en Lituanie et en Lettonie. On termine avec une balle qui rit jaune, une balle de tennis froide et humide. Des joueurs qui essayent désespérément de se réchauffer. Voilà l'ambiance hier pour la première journée du tournoi de Roland-Garros. 1000 spectateurs, 1000 privilégiés, mais pas très emballés par le début de cette édition 2021. Emma Sarango.
Emmitouflé sous sa cape de pluie, Xavier affiche quand même un large sourire en pénétrant dans le stade. Ce passionné de tennis venu de Pau mesure sa chance d'être ici.
On ne savait pas. En arrivant à Paris, on arrivait vendredi, on attendait le tirage au sort qu'on a eu vendredi soir et on a appris la bonne nouvelle, donc on se considère vraiment comme privilégié.
Un privilège accompagné de quelques contraintes, reconnaît Artus.
Il y a du gel hydroalcoolique un peu partout, le port du masque à l'intérieur de l'enceinte, à l'extérieur. Il y a une personne qui vient nous voir si on est assis côte à côte pour nous dire de garder quand même une place d'écart.
Mais ce ne sont pas les précautions sanitaires qui sont les plus pénibles, non, c'est ce petit vent frais et humide qui paralyse Baptiste sur le central malgré le déploiement du nouveau toit.
Bon, il y a quand même des petits courants d'air, c'est quand même froid quoi, ouais.
Et il ne faut pas compter sur la chaleur humaine pour réchauffer l'enceinte. 600 spectateurs tout au plus. Jamais Roland-Garros n'a été si terne, regrette Nicolas.
Par rapport à mai, là, d'habitude, il y a plein de monde partout. Là, c'est... Même les loges, il n'y a pas grand monde. Pas d'ambiance.
L'ambiance qui pourrait se réchauffer, qui sait, en cas de beau parcours tricolore en deuxième semaine.
On y croit. Au chapitre sportif, c'est le Suisse Stan Van Wawrinka qui a remporté le premier choc du tournoi face au Britannique Andy Murray, balayé en trois petits sets.
Merci Sébastien Legénie.